RCF. De midi à 13h,
mais aussi de 17 à 18h,
profitez de l'instant présent
en compagnie d'Olivier Gonsette.
Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour parler littérature avec un auteur de la région et ça fait toujours plaisir de voir ses publications arriver aux éditions De Ville, en l'occurrence Bruno Dinan. Bonjour Bruno.
Bonjour, un grand merci pour l'accueil.
Mais ça fait toujours plaisir. Je me souviens que le dernier, c'était, en tout cas pour lequel on t'avait accueilli, c'était « On ne cloue pas les jeunes filles aux arbres hein. ».
Très bien, oui. Et depuis, j'en ai plus cloué aucune, donc je me suis un peu calmé.
Roman noir, dans la collection des romans noirs, avec un titre cette fois très inspirant, « Pique et carré de dame ». Pique et carré de dame, Bruno Dinan. Alors, on peut aussi dire directement le nom de la personne qui se charge des couvertures chez De Ville.
Jacques de Loustal, hein, qui est plus connu en France, qui fait des superbes dessins.
Ouais.
Et c'est clair que c'est Jacques de Loustal, on ne peut pas lui imposer un dessin particulier, on lui donne quelques idées. Chaque fois, on a une magnifique surprise parce qu'il nous sort des choses inattendues. Ici, effectivement, comme on met en scène... quatre filles qui cherchent à se venger. Loustal a eu la bonne idée de dessiner donc une petite couleur différente sur chacune des filles, cœur, carré, pique, trèfle. Et ça donne super bien sur le dessin de couverture.
Oui, c'est ça. On a donc un personnage masculin, le valet de pique, si on veut, hein,
ouais.
Avec quatre personnages féminins, quatre femmes, qui elles sont les dames des différentes couleurs des cartes. Hein. Et évidemment, ça a un rapport avec votre intrigue. On ne va pas tout dévoiler, mais quand même... On sent que vous aimez ce genre de symbolique qui est très ancré dans nos petites pratiques quotidiennes, parce qu'un jeu de cartes, c'est quelque chose qui évoque un peu, ça parle un peu à tout le monde, ce jeu de cartes.
Oui, puis j'avais en tête le valet qui pue, donc le valet dont il faut se débarrasser absolument, il ne faut pas le garder en main. Et ça tombait bien dans mon histoire, parce que justement, ce fameux valet, sans divulgâcher l'histoire, il faut s'en débarrasser.
Et les
quatre jeunes filles ont des raisons de s'en débarrasser, donc ça tombait super bien, quoi.
Oui, alors dans le début de l'intrigue, donc on est dans le contexte du côté du château de Falaën, j'espère que je prononce bien.
Falaën.
Voilà. Pas très loin d'ici, hein, finalement.
Non, c'est pas très loin. Il faut remonter la Molinier à partir de Hanhay, le long de la Meuse. En fait, les ruines du château de Montaigle existent toujours.
D'accord.
Mais il ne reste plus grand-chose. Il y a des tours, mais des vestiges de tours donc, qui sont à moitié détruites. Et pour mon histoire, j'ai imaginé qu'une tour était restée debout.
D'accord.
Depuis deux siècles environ. Et je voulais faire une allusion au château de Montaigle, mais en même temps, c'est pas exactement la même chose. Donc, j'ai appelé ça la tour Saint-Aigle et j'ai associé au lieu une vieille légende qu'on peut découvrir dans le récit.
On peut en dire un mot de cette légende. La légende, c'est quelque chose qui est important hein, pour vous, ce côté ancré dans les histoires qu'on se transmet de père en fils ou de mère en fille ou de mère en petite fille, de grand-mère en petite fille, etc. C'est important, c'est une dynamique.
La légende ici m'intéressait beaucoup parce qu'elle est doublée d'une malédiction. Et donc, ça m'aidait énormément pour mon roman parce que quelque part, les filles peuvent se dire « Mais nous autres, on a fait jouer une malédiction qui nous dépasse complètement. Donc, on n'y est pas vraiment grand-chose dans cette histoire. Il y a quelque chose qui nous dépasse, qui vient de plus loin. Il y a d'autres filles qui ont été malmenées bien avant nous. Donc, on fait partie de cette lignée de filles qui ne veulent plus que ce genre de comportement arrive. Et ça nous dépasse quelque part. » Et heureusement qu'il y a eu un temps cette fameuse fille qui a résisté et qui a donné lieu à cette fameuse légende.
Donc pour un peu brosser le cadre général, on est dans le contexte de la famille d'Aspremont, ça on peut dire le S, avec donc une sorte de malédiction qui plane, on l'a du côté de leur branche masculine, puisque régulièrement... Un héritier mâle va mourir pendant plus ou moins deux siècles.
Oui, deux siècles, cette génération. Quoi.
Voilà. Et dans un contexte de violence contre des femmes, justement, et vous le dites bien, une des femmes va justement se rebeller, et réagir.
Donc le flashback remonte jusqu'en l'an 1800, où effectivement il y avait là un seigneur qui était tout à fait malveillant envers les femmes, qui avait remis à l'honneur une espèce de droit de cuissage, jusqu'au jour où il est tombé sur une fille qui lui a résisté. Et donc, il avait l'habitude de l'emmener en haut de la tour Saint-Aigle quand elle ne voulait pas se plier à ses caprices. Et si jamais elle n'acceptait pas, elle était jetée du haut de la tour. Et cette fameuse fille s'est jetée elle-même du haut de la tour, mais elle a complètement disparu, dit la légende, parce que là, c'est la légende. Et alors, on voit tout à coup une aigle géante qui surgit de là et qui visiblement va porter la malédiction que cette jeune fille a lancée juste avant de se jeter dans le vide. Elle a lancé une malédiction sur cette génération, en disant que si le comportement n'était pas retiré de la descendance de la famille d'Aspremont, il ne passerait pas dans le siècle suivant, mais le siècle suivant, évidemment, ici, c'était le 21e siècle, puisqu'on court sur deux siècles. Oui. Donc, la question est de savoir, est-ce que le dernier descendant d'Aspremont va pouvoir passer l'an 2000, tout en sachant que dans le contexte de l'an 2000, on se demandait à l'époque, enfin, moi, je me souviens très bien.
Oui, la fin du monde, est-ce qu'on va voir la suite?
Tout va exploser. Donc voilà, c'est lié un peu à cette histoire-là aussi.
Oui, et il est évidemment lui fils, le seul fils de la branche dans sa génération, donc il y a une pression qui s'installe quelque part.
Habituellement, il y avait plusieurs descendants mâles, et donc si on en sacrifiait un, on s'en foutait un petit peu.
Disons que ça n'avait pas l'impact sur la prolongation.
Ici, malheureusement, malheureusement, tant mieux, peut-être, il y a trois filles. D'abord un aîné, un garçon, puis trois filles, et le dernier, on ne sait pas très bien, il est mort en couche, donc il n'y aura jamais qu'un seul descendant, c'est lui qui doit porter tout le poids de la lignée. Quoi.
Mm-hmm. Et de l'autre côté, on a donc justement ce carré de dames qui, quelque part, elle prolonge la fidélité par rapport à cette femme qui, deux siècles avant, ou plusieurs centaines d'années avant, avait réagi. Donc on a deux lignées, deux transmissions. Qui entre un peu en tension.
Disons, du côté des femmes, j'ai fait un peu plus court. J'aime bien l'idée que ce soit la grand-mère qui raconte l'histoire à sa petite fille, parce qu'on écoute plus facilement, évidemment, les histoires de grand-mère, qui vient raconter des vieilles histoires qui ont l'air tellement vraies, tellement probables. Et donc là, en faisant passer la vieille légende de grand-mère en petite fille, avec quatre personnages, j'ai assez, quoi.
Ouais.
Donc là, ça va un peu plus vite au niveau de la transmission.
Oui, ça va un peu plus vite, mais ça fait pas mal de relations entre les filles qui, là aussi, il y a toute une dynamique de est-ce qu'on s'unit, est-ce qu'on se fait confiance, comment on fait un pacte par amitié ou pas.
Il y a
toute cette tension, est-ce que le pacte va être maintenu? Donc pacte de se dire, il y en aurait une de nous quatre qui peut-être devra se venger et les autres seront soudés et ne vont pas la trahir et ne sauront même pas qui c'est.
Oui, c'est ça, ils ne sauront même pas qui c'est. Donc, il y a un stratagème qui est mis au point par les quatre filles, justement avec un jeu de cartes, on va prendre des choses ici, qui fait que le lendemain de la mort de ce jeune descendant, donc Geoffroy d'Aspremont, elles se réunissent et elles doivent savoir si l'une des quatre s'en est chargée. Grâce au stratagème, elles savent qu'une des quatre l'a fait, mais elles ne savent pas laquelle. Sauf celle qui l'a fait, mais elle ne le dit pas forcément. Donc, c'est assez étonnant de voir qu'ici, pour une fois, ce qu'il faut chercher des idées parfois originales, en général, le policier ne sait pas qui l'a fait. Et ici, au niveau des criminels, entre guillemets, enfin, de gentils criminels, elles ne savent pas non plus.
Alors, vous jouez justement, donc on a un peu brossé le tableau. Je crois qu'on ne doit pas nécessairement aller plus loin dans l'histoire, parce qu'on va laisser un peu des surprises au lecteur. Vous jouez donc justement sur ça, où vous donnez des indices au lecteur. Parfois, c'est marrant, même le lecteur en sait plus que les personnages.
Oui.
Vous nous donnez presque un coup d'avance au lecteur par rapport certainement à l'inspecteur qui, lui, doit un peu débrouiller les choses. Et en même temps, vous arrivez à ce qu'on ne sache pas jusqu'au bout les choses, tout en donnant des indices parfois en avance. C'est assez curieux ce jeu de...
Oui, mais j'aime bien emporter le lecteur avec moi et en me disant, voilà, il faut vraiment qu'il m'accompagne.
Vous êtes un peu joueur dans l'écriture.
Oui, j'aime bien. J'en dis juste pas assez, juste de trop, quoi. Je suis un petit peu entre les deux comme ça.
Oui, c'est ça. Vous jouez sur le fil. Parce que du coup, nous, on a en fait l'idée de ce que chaque personnage pense.
Oui.
Et donc, nous pouvons, comme lecteur, faire la synthèse avant que le policier ne découvre justement ce que chaque personnage pense, puisque lui les rencontrer ultérieurement. Et donc, on a à la fois le jeu où nous, on essaye avec un coup d'avance de se dire, tiens, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et où en même temps, on a le jeu de se dire comment le policier ou comment les filles elles-mêmes vont arriver à savoir. Il y a les deux rythmes quasiment d'intrigue.
Hein, non, mais c'est ça qui est gay, je trouve.
Qui est assez gay,
ouais. qui relance constamment le récit, parce que ouais. Quand on s'arrête du côté des filles, on se retrouve du côté du policier, puis on passe du côté des filles, puis il y a aussi la mère
qui
joue un rôle important, dont on entend la caméra se braque sur la fameuse maman.
La mère, puis la grand-mère d'une autre fille. Donc on a plusieurs échelons de lecture qui vont s'imbriquer. Alors pourquoi ce thème des violences justement sur les femmes,
c'est un thème qui est très actuel, quoi. Et je voulais en parler de façon un petit peu originale. Je pense que il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont décidé de ne plus se laisser faire. Et là, j'ai vraiment mis en scène un personnage qui est horrible dans son comportement et qui en même temps, finalement, est-ce qu'il est vraiment responsable?
Il y a quand même
une maman qui l'a dit, voilà, les filles, de rien, tu en fais ce que tu veux. Tant qu'un jour tu épouses une fille bien, entre guillemets, tu peux t'amuser avec les autres. Et on sent que même pour elle, il y a cette espèce d'idée que son fils pourrait la venger de ce qui lui est arrivé, puisqu'elle était normalement amoureuse de quelqu'un qui est parti pour une fille plus jolie qu'elle, qui a un peu joué son charme pour lui voler son premier, entre guillemets. Donc, quelque part, effectivement, ce fils a un peu tous les droits sur les jeunes filles qu'il rencontre, mais quand il tombe réellement amoureux, il est perdu. Oui. Parce qu'à force, évidemment, de considérer les filles comme des objets de jouissance et puis de les jeter, à un moment, il tombe vraiment amoureux de quelqu'un qui dit « Non, moi, je veux pas de relations sexuelles maintenant, je veux un truc sérieux, je suis d'origine italienne, ça compte beaucoup pour moi, etc. » Il est complètement paumé, quoi.
C'est pas
que son charme n'agit pas, parce qu'elle est réellement amoureuse de lui, mais elle dit non, moi je veux un engagement sérieux, quoi. Et pour l'engagement sérieux, c'est le mariage et la promesse. Et je ne coucherai pas avec toi.
Ouais.
Et là, il est vraiment, il est saisi, quoi.
Ouais,
il pourrait évidemment utiliser la force contre elle, mais il ne sait pas le faire. Parce que pour la première fois, je pense qu'il aime véritablement cette fille.
Oui, c'est ça.
Contrairement à toutes les autres qui lui ont jamais beaucoup résisté.
Oui, il est face à ses propres émotions, ses propres presque engagements possibles ou pas, mais et décisions à prendre.
Oui, en même temps, elle lui dit non et quelque part, il respecte ce nom en étant tout à fait déboussolé par ce nom auquel il ne s'attendait pas. On compare quand même un petit peu dans le roman Alain Delon, jeune premier, avec son charme ravageur. Et il est perdu. Et malheureusement, il s'en remet à sa mère pour régler ce problème. Et ça, c'est ce qu'il n'aurait pas dû faire, quoi.
Oui, c'est ça. On est aussi dans toute l'idée des transmissions, comme vous disiez aussi, de l'héritage, mais des responsabilités. Oui. Est-ce qu'on est encore responsable? Parce que ça m'a fait penser un peu à cette dynamique du tragique grec où le héros, on sait qu'il y a une malédiction possible.
Ouais.
Parfois, le héros lui-même ou la héroïne en est conscient ou consciente. Et même en voulant l'éviter, on n'y arrive pas, parce que c'est comme si c'était inscrit et que parfois les générations précédentes ont inscrit cette destinée, ce parcours.
Donc,
qui est responsable? C'est intéressant comme question.
Oui, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, ça a l'air d'être inscrit, mais comme cette malédiction les dépasse complètement, elles pourront toujours dire, on n'y est pour rien.
Oui.
Et donc, moi, j'avais pensé en écrivant ce roman à la malédiction du dernier maître des Templiers, je pense qu'il était Jacques de Molay, qui avait lancé une malédiction sur 13 générations. Notamment sur Philippe le Bel à l'époque et sur le pape Clément V, je pense. Et l'un et l'autre sont morts dans les 3 mois. Et on prétend même que la 13e génération serait Louis XVI qui était guillotiné. On sait bien maintenant en calculant que bon, c'est pas tout à fait juste. Hein, c'est les enfants de Louis XIV qui sont la 13e génération. Mais alors, ce qui m'intéressait vraiment, c'était la question suivante. Est-ce qu'on peut tuer quelqu'un par le maudire ou par le mal dire? Est-ce qu'on tue quelqu'un en disant du mal? Je pense que oui, c'est possible. Quand on harcèle quelqu'un, un jeune élève, dans une école, il y en a qui en meurent, quoi. Donc il y a des paroles qui tuent. Et en même temps, ce qui est très amusant, c'est que c'est pas aussi vrai que ça, quoi. Si on pouvait tuer quelqu'un d'une parole, Poutine, il serait mort depuis longtemps, quoi. Tous les gens qui l'ont maudit et qui ont souhaité sa mort. Et donc je joue cette ambiguïté qui sert bien mes héroïnes, parce qu'à un moment, elles sont responsables, puis on dit « Ah non, la malédiction m'a dépassé ». En fait, quand on comprend un peu comment elles ont agi, c'est pas vraiment elles, et ça aurait pu se passer autrement. Voilà, c'est la Sainte-Aigle qui nous a dit un peu comment faire, mais on n'était pas sûr que ça allait marcher. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on sent dès le début que ce gars est infâme. Je le décris d'ailleurs d'abord son côté noir. On dit il faut liquider, rien à faire. Elles vont le liquider, quoi. Peu importe à quel sens, il faut le faire. Et en même temps, ces quatre filles, peu à peu, ressentent chacune, elles ont chacun un chemin différent par rapport à la vengeance.
Oui, c'est ça.
Parce que le problème, évidemment, quand on se venge, est-ce qu'on est mieux après ?
Oui.
J'ai entendu quelque part une parole qui disait « Celui qui veut se venger doit commencer par creuser deux tombes. Mmh. » Vous entendez la sienne de l'autre aussi. Et la sienne aussi. Quoi. Oui. Et donc, c'est une question auquel je n'ai pas de réponse. Quoi. Si on ne se venge pas, on n'est pas bien. Si on se venge, est-ce qu'on est mieux ?
Ah oui, mais c'est intéressant. C'est vrai qu'on tourne autour de ce thème de, ouais. De la vengeance. Quelque part, qu'est-ce qu'on fait de, pour presque tous les personnages, je veux dire, avec des styles différents, ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait des blessures qu'on porte et qu'on n'arrive pas à cicatriser ?
C'est ça.
Ça aussi, ça revient, cette idée de cicatriser.
En Allemagne, il y a un fait divers assez prenant d'une femme qui, en pleine cour d'assises, a abattu l'assassin de sa petite fille qui avait 12 ans, qui avait été violée, parce
d'accord.
Que pour elle, il n'y avait pas d'autre alternative que de tuer ce gars, quoi. Il fallait qu'il arrête de nuire, qu'il arrête de parler, qu'il arrête d'être présent, même.
Oui.
Est-ce qu'elle s'est sentie mieux après ? Je ne sais pas. Je n'ai pas eu la suite de l'article, qui était assez court, quoi. Mais c'est une question, quand même, qui me semble intéressante, quoi. Parce qu'on est vraiment un peu, effectivement, en pleine tragédie. Aucune des deux solutions n'est la bonne. Pour certains, ne pas se venger, c'est trop dur. Et quand on se venge, hein, on ne ramène pas la personne qui est morte de toute façon. Donc,
ouais. Alors, au milieu de tout ça, un peu au milieu du jeu de quilles, il y a le policier aussi qui, lui, n'est pas victime directement d'une malédiction. C'est
peut-être
le seul qui est un peu en dehors. Mais heureusement qu'il est là, quelque part, pour faire un peu la part des choses et avoir une sorte de comme sur la balle de ping-pong qui rebondit sur quelque part pour renvoyer quelque chose.
Il essaye de mettre un peu de rationalité dans l'affaire, quoi. Parce que lui, il est policier, il veut des faits. Et c'est vrai qu'il est quand même un peu dépassé, quoi.
Oui.
Parce qu'à la fin, quand il touche un peu du doigt le truc, une des protagonistes, une des jeunes filles, lui dit « Mais vous n'êtes pas un peu intéressé aux légendes du lieu ?» Parce que vous devez vous intéresser. Il y a des choses qui se passent ici. Il y a des vieilles malédictions, des vieilles légendes qui courent. Et vous devez absolument y faire attention. Lui, il n'est pas du tout là-dedans, quoi.
Non. Oui.
Pour lui, les lieux ne tuent pas.
Oui, c'est ce qu'il dit. Hein, un lieu n'a jamais tué personne.
Ben oui, c'est ça.
Oui. Et quelle est la réponse à ça ? Vous avez votre propre réponse ? Est-ce qu'un lieu, quelque part, les lieux ont aussi leur importance ?
J'ai suis passé plusieurs fois près des ruines du château Montaigue en baladant, notamment sur l'endroit où il y a les Drésines. Quoi. C'est un ancien chemin de fer qui était aménagé. Et j'ai décidé de ne pas le visiter. J'aurais pu le visiter, mais je me dis, si je le visite, on va me donner trop d'idées là-dessus.
D'accord,
j'aimerais bien laisser que mon imagination travaille. Et effectivement, quand je vois ce château détruit, je me dis, c'est un lieu de mort, quoi, quelque part.
Ah oui.
Les tours sont tombées, il y a sans doute y avoir des combats qui ont dû se passer là-bas, quoi. Et donc, c'est vrai qu'il y a des lieux très apaisants. Mon précédent roman, je suis dans les forêts d'Ardennes avec des vieux chênes centenaires. On s'y sent bien, on peut les enlacer, quoi.
Oui.
Ici, par contre, des châteaux en ruine avec des vestiges de combats. Pour moi, ce sont des lieux qui sont noirs, quoi, quelque part.
Et des hautes falaises aussi, hein,
oui,
quelque part, qui incarnaient ici aussi dans le roman la différence parfois aussi de milieu social, parce qu'on est dans une famille de la noblesse et d'Aspremont. Par rapport à parfois des personnes issues de l'immigration, etc.
La tour est très symbolique. Hein. On raconte dans le roman que la tour n'est pas très haute, 30 mètres, mais elle était construite sur un promontoire qui fait que finalement, les Aspremont ont la tour la plus haute de la région. Mm-hmm. Et je me suis renseigné, le château le plus près sur la Meuse, un peu plus bas. Et même si sa tour avait été plus haute, les Aspremont étaient quand même au-dessus.
D'accord. Ah oui, c'était fait exprès, sans doute.
C'était fait exprès, oui.
Oui, il y a tout un travail de documentation qui précède le roman.
Ah oui, j'ai...
C'est vrai.
Dans mon dossier roman, j'ai tout un dossier document où je fais des tas de recherches sur des tas de choses. Même parfois sur les heures, les solstices, les dates. Est-ce que la nuit est bien tombée à telle heure, précisément,
d'accord.
Cette date-là ? Parce que le crime, est-ce qu'il se passe dans... Il y a un peu d'obscurité ou pas ? Il faut faire des recherches.
Ah, des choses de ce style-là. Et parfois, on va dire les chevaux, le tissu de votre histoire change en cours de route ?
Oui,
la personne meurtrière, par exemple, était déjà présente dans votre tête dès le début ou bien ça parfois ça bouge et puis vous dites mais finalement ça pourrait être aussi cette personne-là.
Non, en fait, j'écris comme ça et on n'est pas toujours d'accord quand on échange avec auteurs. Il y a des auteurs qui ont leur plan bien établi et qui suivent la lettre. Moi, j'ai l'idée de départ et je me laisse vraiment porter par mes personnages et je trouve ça très, très amusant parce que je suis un peu comme un lecteur qui découvre l'histoire lui-même.
C'est ça. Oui.
Et donc, dans le roman que j'écris maintenant, par exemple, il y a un personnage qui prend beaucoup d'ampleur. Au début, il était un simple comptable, personnage secondaire. Et peu à peu, je vois que... Voilà, il prend beaucoup plus de vie. Et je compare souvent ça à mes enfants devenus ados, quoi. Quelque part, ils ont pris un chemin tout à fait inattendu. Je ne pouvais pas dire, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Mm-hmm. Et mes personnages, c'est un petit peu comme ça, quoi. À un moment, ils me prennent la main et on leur dit, bon, tu m'as donné vie, mon petit gars. Maintenant, je vais là où je sens que je dois aller. Et tu n'as qu'à suivre un petit peu, comment vais-je dire, suivre un peu mon intuition, mon instinct. J'ai envie de faire ça et pas ça. Et donc, c'est vrai, des quatre filles, je ne savais pas très bien qui était.
Oui,
et je pense d'ailleurs, parce que ma femme a relu le roman, elle pensait que c'était une autre.
D'accord, oui.
Parce que quelque part, inconsciemment, peut-être qu'au début, je pensais que ça devait être une autre.
D'accord, oui.
Voilà.
Oui, bon, c'est un peu logique, hein, ça peut aussi bouger parce que les...
Puis un jeu très amusant, enfin moi que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai fait les mouvements de jeunesse, le fait que ces quatre filles aient été dans les mouvements de jeunesse avec chacun
un
totem.
Important, oui.
Le jeu avec le totem est intéressant, quoi. Oui. Ça donne à la fois le caractère, ça permet d'ailleurs un moment aux policiers de rigoler un petit peu parce qu'il ne sait pas très bien quel totem il pourrait donner à ses agents.
Et ça reprend aussi l'idée de est-ce que le nom qu'on donne aux choses ou aux personnes a une influence sur leur trajectoire quelque part. Est-ce que ces paroles ont une forme de performativité, on dirait.
C'est ça, oui. Enfin, pour des totems, en général, ils correspondent plus ou moins bien au caractère des personnages.
C'est parfois aussi dans l'autre sens.
Oui,
en fait, on donne un nom en fonction des actions
de la personne. Oui, parfois, on donne
un
qualificatif en plus qui souvent peut être acquis ou à acquérir. Et quand on dit acquérir, c'est vrai qu'il y a encore un petit chemin à faire pour le scout ou la guide, mais ça, c'est gai, quoi.
Oui. Dernière petite question, Bruno. Est-ce qu'il y a déjà des projets sur la table, des suites? Vous êtes tellement productif qu'à mon avis, il y a encore des choses qui vont
arriver. J'ai un roman jeunesse que j'ai déposé chez mon éditeur parce qu'il a créé une collection jeunesse et j'ai pas encore
Frédéric
son retour.
Frédéric Deville,
Mais là, il est terminé, relu et compagnie. Et là, c'est plutôt sur le thème du climat.
D'accord.
En deux mots, donc, on est projeté dans un avenir assez lointain où finalement, sur notre planète, il y a l'éther chaude d'un côté et le grand couloir du froid de l'autre côté, quoi.
D'accord. Ouais.
Je ne sais pas en dire plus au moment, mais donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi une espèce de légende qui dit que pour reverdir l'éther chaude, il faut finalement qu'un enfant soit conçu entre une fille d'éther froide et un gars d'éther chaude. Donc, ils doivent se rencontrer, tomber amoureux et mettre au monde cet enfant qui va reverdir la terre. Parce que malheureusement, de plus en plus, le désert gagne sur les terres qui autrefois étaient boisées, quoi.
Ouais.
Et alors, pour l'instant, j'ai terminé un nouveau polar sur un thème vraiment un peu particulier qui m'était inspiré par un livre que mon épouse a lu. Donc, c'est l'histoire d'un jeune garçon dont la grand-mère entend des voix. Elle a un don particulier, les médiums, et elle peut communiquer avec les morts. Mais ça fait très peur à la maman du garçon, parce qu'évidemment, quand la grand-mère meurt, elle meurt un peu prématurément, comme si le fait de en contact avec les morts l'avait fait vieillir un peu plus vite. Et avant de mourir, elle pose sa main sur l'épaule du jeune garçon, qui s'appelle Rémi, dit « Voilà, je te passe le don. » Et la maman l'arrache à sa grand-mère en disant « Non, il ne faut pas, celui qui parle aux morts, ils amènent la mort. » Et donc, durant 15 ans, il ne se passe rien. Et on retrouve de 12 ans, 15 ans, le gars a 27 ans, il est marié, il travaille son exploitation agricole, et une nuit, il entend les voix reviennent.
Ah oui, ça reste.
Les voix reviennent.
Oui.
Et malheureusement, ces voix, le titre que j'ai trouvé pour mon roman, pour l'instant, c'est « Les voix assassines », ça peut encore changer. Les voix sont celles d'une jeune fille qui a été tuée sans qu'on puisse savoir qui l'a tuée.
D'accord.
Et cette jeune fille demande vengeance.
D'accord. Ok, ben on suivra ça aussi. On retrouve la place de la légende et des paroles qui se transmettent. C'est bien.
J'aime bien qu'il y ait quelque chose d'un peu plus grand que nous, quoi, qui plane un peu au-dessus de nos têtes, qui vient un peu des gens qui nous ont précédés et qui ont aussi des paroles à dire, qu'il ne faut pas trop vite oublier non plus, parce qu'on ne vient pas de rien. Quoi. On vient de tas de générations qui sont venues avant. Et tout ce qui est transgénérationnel, moi, j'aime beaucoup aussi. Quoi.
Ça se ressent ici aussi dans Pique, Épique et Carré de Dames. femmes, un roman noir aux éditions Deville, par Bruno Dinant. Merci beaucoup, hein, Bruno.
Un grand merci.
Vous nous tenez au courant quand le suivant sort.
Avec plaisir.
À bientôt.